ne touche rien. Voilà la vérité dans cette
problème.
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
Qu'est-ce que tu dis?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
C'est eux qui vous trouvent, hein?
Toute notre vie est un problème.
Et à qui la faute, tu crois?
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à la Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère.
Vous travaillez à réduire globalement la violence qui reste invisible, en tout cas à partir des lieux centraux ou dominants, celle qui s'exerce au jour le jour, pêle-mêle, dans les familles, les usines, les ateliers, les commissariats, les prisons, ou même les hôpitaux et les écoles, et qui est le produit de la violence inerte des structures économiques et sociales et des mécanismes impitoyables qui contribuent à les reproduire.
Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, RIS de Radio Canu, Radio Rebelle. Il est pas tout à fait 21h, mais c'est l'émission Angle Mort, donc émission directe qui reprend, enfin qui prend la parole. Mission de critique sociale et de sciences sociales critiques. Et au menu de ce soir, on va diffuser une conférence à nouveau. Une conférence d'Annie Colvald, professeure de sociologie à l'Université de Nantes et directrice du Centre Nantais de Sociologie. Une conférence titrée « Populisme, fascisme, extrême droite, point d'interrogation sur l'interprétation des liens entre le Front National et les classes populaires ». C'est une conférence qui date d'il y a 2 ans et qui est mise sur en ligne par les films de l'an 2. Donc c'est une conférence qui a pour thème la question donc du populisme. Peut-on dire du FN qu'il est populiste? Donc cette catégorie, est-ce que c'est la catégorie qui convient? Donc derrière, c'est bien sûr donc la question des relations qui peut exister entre le FN et les classes populaires. Et Annie Colvald s'est fait connaître par un livre qui est devenu classique sur la question du Front National, un livre intitulé Le populisme du FN, un dangereux contresens, qui est paru en 2004 aux éditions du Croquant et qui est toujours d'actualité, même si bon, des choses ont pu bouger hein, parce qu'entre temps le FN a encore gagné électoralement, en tout cas en proportion de voix. Mais donc il reste d'actualité et en fait à l'origine de cette de ce travail d'Annie Colleval, il y a une donc plusieurs insatisfactions autour donc de la manière dont sont interprétés généralement les scores électoraux du FN et dont avec toujours une mise en avant d'un électorat qui serait populaire. Et donc dire du FN qui est populiste pour le coup, en montrant ses liens avec les classes populaires, ça revient d'une part à mépriser les groupes populaires, à les rendre responsables de la montée du FN. Il y a tout un tas de discours qui vont dire oui que les classes populaires, donc c'est surtout les gens qui ont peu de diplômes, qui sont incultes, qui sont au fond autoritaires au fond d'eux-mêmes. Et qui sont prêts à se soumettre à tout dictateur en puissance pour peu qu'il soit un peu charismatique. Et donc voilà, il y a une vision assez méprisante derrière ces discours des groupes populaires qui tend aussi du coup, du même coup, à exonérer les élites sociales, les élites politiques, économiques, médiatiques, dans la montée en puissance du Front National. Et c'est un discours qui joue aussi, d'une certaine manière, même si c'est une injure populiste généralement aujourd'hui, c'est un discours qui tend à faire le jeu du FN qui, à tout prendre, préfère bien sûr être qualifié de populiste que de fasciste ou d'extrémiste, puisque populiste, on peut le retourner à travers un discours du type « oui, effectivement, nous sommes populistes, nous représentons les petits contre les élites, etc. » Donc voilà, Annie Colleval s'est penchée sur ce discours, on a fait la genèse historique, essayer de comprendre d'où ça vient, pourquoi il s'est imposé, et aussi essayer d'amener certains contre-éléments qui remettent en cause le lien très fréquemment fait aujourd'hui entre FN et classe populaire, avec cette idée que ce sont d'abord les classes populaires qui voteraient pour le FN. Voilà, j'en dis pas plus puisque maintenant il est 21h, je me suis permis de prendre la parole un peu avant parce que la conférence est un peu longue. J'en ai fait d'ailleurs quelques coupes, je le précise, et j'ai aussi, c'est un peu expérimental, mais j'ai un peu boosté l'allure de l'enregistrement, donc vous étonnez pas si vous reconnaissez pas la voix, si par exemple vous avez déjà entendu Annie Colleval, effectivement la voix est un peu différente puisqu'elle est accélérée. Donc j'indique aussi avant de lancer la conférence qu'on a déjà diffusé une autre conférence sur la question de l'électorat ou du conglomérat électoral du Front National, une conférence de Patrick Lehingue que vous pouvez réécouter toujours sur notre blog donc hébergé par le site radiocanu.org, donc le blog d'Angle Mort. Et comme vous pourrez réécouter cette conférence à Annie Colleval, je mettrai aussi, je pense, en ligne le lien vers l'original de la conférence, qui est une vidéo. Voilà, pour avoir la conférence en entier avec la voix normale et avec les questions aussi, enfin les réponses aux questions. Voilà. Donc, bref, Angle Mort sur Radio Canu. Tout de suite, Annie Colleval.
Je voudrais remercier Jean Salem pour cette invitation et me donner l'occasion de présenter un travail que j'ai mené il y a déjà pas mal de temps, puisque le livre est sorti en 2004. Mais il me semble que c'est toujours d'une grande actualité, comme on a pu le voir lors des présidentielles de 2012, où la question des liens entre le Front National et les classes populaires était revenue comme une rengaine dans les commentaires de presse, les prises de position non politiques, et les ouvrages aussi savants qui portent sur cette question-là. Alors, ce que je voudrais vous montrer, je vais le dire de manière abrupte, c'est que cette question des liens entre le Front National et les classes populaires est devenue maintenant une évidence. C'est une évidence, ça apparaît même la seule question à se poser, en fait, à chaque élection, depuis 1995, et surtout depuis 2002, lorsque Le Pen est arrivé au second tour des présidentielles. C'est devenu une évidence sur la base de sondages, de commentaires, d'interprétations, de journalistes, entre autres, voire d'intellectuels. Et ça apparaît donc comme la seule question à se poser sur les classes populaires, c'est-à-dire sur leur engouement à l'égard du Front National. Le Front National est en vue maintenant, je vais y revenir, comme le parti principal de leur choix électoral. Donc c'est une idée qui est bien établie, qu'il y aurait un lien entre Front National et classe populaire. Elle est bien établie et j'aimerais vous montrer que c'est une évidence qui ne tient pas, qui ne repose pas sur des éléments très très concrets et fondés. En effet, quand on regarde l'histoire de cette question des liens entre Front National et classe populaire, on s'aperçoit que c'est une évidence extrêmement récente, qui date des années 90 et pas avant. Avant, quand on s'interroge sur les engouements électoraux des classes populaires, bon, par exemple, c'est plutôt pour la gauche. Dans les années 70, c'était plutôt ça, ce qu'on mettait donc en avant, et pas le Front National n'existait pas encore. Mais même quand le Front National apparaît, donc en 1983-1984, où pour la première fois il s'introduit sur la scène politique nationale, souvenez-vous, en 84 avec les élections européennes, ce qui est mis en avant, c'est moins ses liens avec les classes populaires que son hérédité, si l'on peut dire, extrême droite. On insiste sur les liens entre les dirigeants et leur histoire passée, liens avec Vichy, avec l'OAS, etc. Et donc, ce qui domine à ce moment-là, c'est moins de dire qu'il y a des liens entre classe populaire et Front National que de s'interroger sur la résurrection, si l'on peut dire, d'une extrême droite qui n'existait plus depuis l'après-guerre. Donc c'est une évidence récente et je vais essayer de vous en restituer un peu l'histoire. Comment est-ce qu'on en est venu à penser, très largement, je vous l'ai dit, ça domine les commentaires électoraux, les commentaires de journalistes, les commentaires politiques, chez les hommes politiques, voire même les commentaires savants, historiens, politistes qui s'intéressent à cette question. C'est une question qui domine ces différents secteurs. Donc c'est une histoire récente qui va en fait faire changer, et ça va être le deuxième point, faire changer le regard qu'on porte sur les classes populaires et sur la démocratie. Donc ça sera le deuxième point, comment ça change nos regards et comment cette évidence est une illusion très mal fondée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments concrets qui justifie ce lien. Le troisième point, ça sera de vous montrer que du coup, ça empêche de poser en fait les bonnes questions qu'il y aurait à se poser sur les classes populaires, sur le Front National, sur la démocratie. Donc le premier point, c'est comment cette représentation, cette idée qu'il y a un lien entre classe populaire et Front National s'est-elle imposée ? On s'aperçoit qu'elle est liée non pas à un intérêt pour le Front National, non pas à un intérêt pour les classes populaires, mais elle est liée à une représentation du Front National comme étant du populisme. En fait, cette idée vient de l'usage qui a été fait de dire le Front National, c'est du populisme. Alors, comment cette idée, voilà, le Front National, c'est du populisme, a-t-elle réussi à s'imposer ? Lorsqu'on se reporte au moment de la création du Front National en 1972, le terme n'est pas employé. C'est pas du tout le terme de populisme qui est employé, je vous l'ai dit. Ce qui prévaut alors, ce sont des étiquettes ou des labels comme fasciste, extrême droite. Le terme de populisme n'apparaît pas non plus, n'est pas du tout utilisé quand le Front National, dans les années 80, je vous dis 83-84, apparaît sur la scène politique centrale. Là encore, l'ensemble des commentateurs, donc la presse, les hommes politiques, les intellectuels qui se mobilisent pour qualifier le Front National alors, n'emploient pas du tout le terme de populisme, ils emploient le terme de fascisme, de poujadisme et d'extrême droite. Là, c'est extrêmement important parce que ces étiquettes ou ces qualifications attirent les regards, les commentateurs regardent d'abord les dirigeants frontistes, ils viennent d'où, c'est quoi leur carrière, ou les militants, ils viennent d'où, c'est plutôt qui, et on insiste à propos des militants, bon par exemple, donc j'emploie leurs termes, ce ne sont pas les miens, voilà, on aurait affaire à des beaufs, blancs, racistes, qui soutiendraient donc le Front National. Et l'image sociale qui est accolée donc à ces beaufs, c'est plutôt les artisans, les petits commerçants, voire le patronat. En quelque sorte, au tout début donc des années 80, intellectuels, hommes politiques, historiens s'accordent à ce moment-là pour voir dans le Front National une extrême droite liée à un passé fascisant en France. Ce n'est qu'à partir de 1986-1988, où, souvenez-vous, là, vous avez 36 élus frontistes qui arrivent à l'Assemblée nationale, que le terme de populisme va commencer à être employé. Et ceux qui en font usage, ce sont à ce moment-là des historiens. Des historiens qui prennent position dans la presse, mais qui écrivent aussi des ouvrages savants sur cette question, qui interviennent dans la presse, qui va reprendre un peu leurs propos. Alors, ces historiens, c'est qui ? Ce sont des historiens bien particuliers, ce sont des historiens qu'on appelle historiens du temps présent, c'est-à-dire dont les travaux portent sur les années 30 en France. Donc les années 30, c'est le moment des ligues, des ligues d'extrême droite. Ce sont des historiens qui travaillent aussi sur Vichy, et dont l'enjeu, en fait, professionnel, ou l'enjeu historiographique, est de dire il n'y a jamais eu de fascisme en France, si ce n'est extrêmement résiduel, même au temps des ligues. À l'inverse de ce que disent des historiens étrangers, donc au même moment, qui eux insistent, bon, par exemple comme Sternel, sur le fait que la France aurait été en fait le foyer fondateur de l'idéologie fasciste. Ou encore de Paxton, historien donc américain, qui montre que Vichy a très largement anticipé sur les désirs de l'occupant, notamment en ce qui concerne les lois antisémites, et qu'il existait bien donc un antisémitisme extrêmement fort en France, lié à l'extrême droite, voire au fascisme. Les historiens français, donc, sont sur une position très particulière, qu'ils défendent encore. Il n'y a jamais eu de fascisme en France, si ce n'est extrêmement résiduel. Et quelle n'est donc pas leur surprise de voir un parti qui réapparaît dans les années 80, dont tout le monde dit que c'est du fascisme. En quelque sorte, ils se sentent interpellés, et ils vont intervenir sur cette question-là, bon, pour dire, on se trompe, le Front National n'a rien à voir avec du fascisme, n'a plus rien à voir avec la vieille extrême droite liée à Vichy et à l'OAS, on a affaire à une nouvelle droite, certes un peu radicale, mais surtout une nouvelle droite très populaire, on aurait affaire avec le Front National à du populisme. C'est sur cet argument-là, en fait, qu'ils vont inventer, on peut le dire, une nouvelle filiation à droite, la filiation bien populiste. Je ne sais pas si vous connaissez les travaux de René Raymond, grand historien donc français, qui a travaillé sur les droites en France, et qui, jusqu'à ce moment-là, a dit il n'y a que trois droites en France, la légitimiste, celle qui a voté la mort du roi, et que l'on retrouve dans le cours du temps jusque maintenant. Elle s'incarnerait à ce moment-là sous les traits de Philippe de Villiers, bon, par exemple, voilà, donc le légitimisme, l'orléanisme, à l'inverse, donc ces nobles qui votent la mort du roi, et qui sont plus libéraux, plus centristes, etc., dont on retrouverait en fait la filiation jusque maintenant, enfin maintenant les années 80, sous les traits de l'UDF, par exemple, de Valéry Giscard d'Estaing. Troisième droite, qui naît un tout petit peu plus tard, la bonapartiste, avec Bonaparte, donc, et qui traverserait le temps jusqu'aux années 80 et qui s'incarnerait dans Jacques Chirac, le gaullisme, etc. Droite un peu autoritaire, qui impose des idéaux nationalistes, mais qui est une droite. Donc, l'espace politique à droite est pris par ces trois droites. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de place pour une autre droite, le fascisme. Sauf que là, quand ils interviennent pour dire le Front National c'est du populisme, pas du fascisme, c'est du populisme, ils sont en quelque sorte obligés d'inventer une nouvelle droite, donc ça va être la filiation bien populiste, qu'ils font remonter, selon leur méthode, au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, avec Boulanger. Boulanger aurait été le précurseur en fait de ces filiations populistes qui auraient traversé le temps. Dans les années 50, elle se serait incarnée sous les traits de Poujade, et maintenant elle s'incarnerait sous les traits de Jean-Marie Le Pen. Alors bien sûr, cette entreprise de filiation suscite des réserves. Encore une fois, il faut la remettre à l'endroit, hein, si l'on peut dire, et voir un peu sur quoi elle se fonde, quels sont les arguments que ces historiens ont pour dire, voilà, avec Le Pen, on aurait affaire à un fils de Boulanger et de Poujade. Ceci dit, entre parenthèses, on est quand même rassuré, hein, puisque aussi bien Boulanger que Le Pen, que Pierre Poujade n'ont pas pris le pouvoir. Ils ont plutôt la réputation d'être des héros calamiteux. Donc on est plutôt rassuré. Le Pen étant le fils de ces héros calamiteux, on n'a pas trop de crainte à avoir. Hein, il ne prendra pas le pouvoir. Je me chante, hein, mais je fais. Alors, quels sont les arguments? Eh bien, en fait, ils vont se fonder sur des critères, en fait, de façade. Et ils vont dire, voilà, aussi bien un Boulanger que Poujade et que Le Pen, ce sont des hommes politiques forts en gueule, assez costauds, ils se ressemblent, hein, donc ils se ressemblent. Donc ce n'est pas innocent si on peut les mettre ensemble. Ensuite, ils ont des discours contre les élites établies, les trois, sortez les sortants. Hein. Sauf que sortez les sortants, c'est Poujade qui le dit, c'est pas un Boulanger, mais en tous les cas, ils mettent ces mots-là aussi dans la bouche de un Boulanger. Sortez les sortants, donc anti-élite. Hein. Et ils auraient aussi des discours très sociaux qui en appelleraient au peuple. Et donc, c'est sur cette base-là qu'ils se fondent pour dire, bien voilà, ceux qui suivent les leaders de cette droite populiste, hein, ce sont en fait les classes populaires qui se retrouvent dans ces discours sociaux. Pour quelle raison est-ce que je dis que ce sont des critères de façade? C'est pas parce qu'on se ressemble physiquement, hein, qu'on a les mêmes positions politiques, bon, ça c'est un point. Mais surtout, c'est qu'au moment où ils affirment que Le Pen reçoit les soutiens électoraux des classes populaires, aucune enquête empirique n'est venue apporter la preuve de cela. Ça va arriver un peu plus tard, mais pas là. Hein. Ensuite, je vous l'ai dit, bon, par rapport aux années 1970 ou au début des années 80, les regards se portent, surtout sur les dirigeants et les militants. Maintenant, avec le terme de populisme, les regards se réorientent et se réorientent sur les électeurs. On ne regarde plus les dirigeants, on ne regarde plus les militants, mais on regarde les électeurs. Électeurs, encore une fois, sur lesquels aucune enquête sociologique n'a encore été faite. Donc ils supposent que si l'on tient des discours sociaux, ceux qui vont se mobiliser en faveur du leader qui les tient, ce sont les classes populaires. Rien ne le dit, hein, sauf après enquête. Donc c'est une qualification, la qualification de populisme, qui à ce moment-là n'a aucun fondement concret, sauf donc encore une fois des critères de façade, hein, et qui attire de manière très privilégiée les regards sur les électeurs et plus du tout sur les dirigeants ou sur les militants. Or, si l'on faisait une analyse que des sociologues ont fait, hein, des dirigeants fontistes, on s'apercevrait que aucun n'appartient au groupe populaire. En 86-88, les élus, bon, par exemple, les élus frontistes, appartiennent très majoritairement aux classes supérieures. Vous avez bon, des avocats, vous avez des cadres sup du privé, vous avez des enseignants de supérieurs, aucun fils du peuple. Aucun. Les militants aussi, vous avez eu bon, des enquêtes sur les militants qui montrent très bien que à ce moment-là, les militants se recrutent plutôt dans les petites classes moyennes, que l'on appelle en sociologie du pôle économique, c'est-à-dire artisans, commerçants, très petits patrons, cadres supérieurs de privé, mais pas du tout les classes populaires. Alors maintenant, d'où vient cette identité de populiste, ce label de populisme? On peut aussi en retracer l'histoire. C'est un peu ce que j'ai fait. C'est-à-dire que c'est un mot qui existe depuis extrêmement longtemps. Hein. Il apparaît à la fin du XIXe siècle, en Russie et aux États-Unis, sous la forme de deux mouvements qui en revendiquent le terme. Hein. Le Parti du Peuple aux États-Unis, qui est le parti des petits fermiers, qui se rebellent contre les grands propriétaires terriens, et les populistes russes, qui sont ces intellectuels qui vont au-devant des paysans pour les amener à se révolter contre le tsar. Donc ce sont ces deux mouvements, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, qui emploient le terme. Après eux, aucune organisation n'en a revendiqué le terme. Aucune. Reste que ce mot va continuer à être employé, il va donc fonctionner comme une représentation. Si l'on en fait l'histoire, c'est-à-dire si l'on s'intéresse aux usages qui en sont faits, en fonction des contextes historiques, politiques et nationaux, on voit que sous l'apparente filiation du terme s'opèrent dans le cours du temps des ruptures de signification. En quelque sorte, le mot va changer de sens et de signification dans le cours du temps. C'est un mot qui a eu, si l'on peut dire, un très étrange voyage, un voyage international. Donc là, je vais très vite. Ce n'est pas sans effet. Ce n'est pas sans effet sur le regard que l'on porte sur les groupes populaires. En effet, quand on revient en France, donc, et qu'on regarde les usages qui avaient cours à ce moment-là du terme populisme, on s'aperçoit que le populisme est en usage, effectivement, mais pas pour qualifier l'extrême droite. Quand on regarde les usages donc, qui ont cours en France, là aussi, on s'aperçoit qu'il y a deux orientations, deux modes, si vous voulez, deux âges du terme populiste. Un qui valorise les groupes populaires, c'est dans les années 30, 40, 50, la littérature populiste, le prix mon populiste, qui est plutôt en fait mis en avant par le Parti communiste pour montrer l'ouvriérisme existe. Et donc le populisme, là, c'est la valorisation en fait des attributs mon populaire, soit des auteurs, donc des écrivains, soit des responsables politiques. Donc le terme valorise les critères populaires, les attributs mon populaire. Le deuxième usage est un peu en fait en décalage avec cela. C'est le terme de populisme stigmatise. Il stigmatise. Mais il stigmatise à ce moment-là les élites et non pas les groupes populaires. Bon, par exemple, le terme populiste est employé en sociologie de la culture. Bon, par exemple, chez Bourdieu, chez Passeron, qui montre que c'est une autre inclination des intellectuels. Vous avez le misérabilisme qui, quand les intellectuels regardent les groupes populaires, ne voient que du manque. Voilà, les pauvres, ils n'ont pas de diplôme, il faut les aider, ils n'ont pas de ressources, etc. Ça, c'est le misérabilisme. À l'inverse, vous avez l'inclination des intellectuels à valoriser en fait les attributs bon populaires, en montrant que le peuple est le seul groupe social authentique, véritable. Bien. Or, nous disent les sociologues, aussi bien chez Passeron que chez Bourdieu, il s'agit là d'une erreur. Les intellectuels, en fait, manipuleraient les intérêts du peuple au nom de leurs propres intérêts. Donc le populisme est une inclination des intellectuels qui manipulent et donc trompent les groupes populaires sur leurs propres intérêts. Ils reprennent en cela la définition de Lénine de populisme et qui est employée aussi dans les années 70 pour critiquer le Parti communiste, notamment à l'extrême gauche. C'est l'extrême gauche qui emploie le terme, un terme qui était défini par Lénine comme effectivement le populisme étant une manipulation, une tromperie en fait de la part des intellectuels sur les intérêts propres du peuple. En quelque sorte, donc, le populisme stigmatise à ce moment-là. Il critique, mais ceux qu'il stigmatise, ce sont les élites. Avec l'usage de populisme sur le Front National, il y a un complet renversement de perspective. Le terme va stigmatiser, mais plus les élites, Il va stigmatiser les groupes populaires supposés être xénophobes, racistes, etc., et être les principaux soutiens de ce parti indigne qui est le Front National. Donc on voit bien l'effet qu'a l'usage du terme sur le Front National. Il renverse les perspectives que l'on tient sur les groupes populaires, il oriente les regards vers les électeurs et plus sur ceux qui encadrent le Front National, c'est-à-dire les dirigeants et les militants, et il fait accepter l'idée qu'il y a bien des liens entre groupes populaires et Front National. Encore une fois, c'est un terme qui n'a pas de fondement empirique encore. Ce mot, donc le populisme, va trouver sa plausibilité un peu plus tard, ou son crédit, ou sa vérité, si vous voulez, entre guillemets vérité, à partir des élections de 1995 et surtout les élections de 2002. Là, vous avez des politologues, des sondeurs et des commentateurs donc, qui vont analyser les résultats électoraux des présidentielles, en s'appuyant sur des sondages, sondages sortis des urnes, c'est-à-dire des sondages qui sont faits une fois que les gens sont allés voter, une fois qu'ils sortent de l'isoloir, on leur demande s'ils veulent bien répondre à un sondage, et on leur demande pour qui ils ont voté, quelles étaient leurs idées, pourquoi ils ont voté pour un tel, etc. Donc c'est des sondages, je vais donc y revenir, qui... ne s'intéressent qu'aux votants, ceux qui sont allés voter. Et ce sont aussi des sondages. Je reviendrai un tout petit peu plus tard. Et là, donc en 2002, vous vous souvenez, même pour les plus jeunes quand même, ça a été un véritable scandale. Ça a créé, l'arrivée de Le Pen au second tour a créé une véritable stupeur. D'abord parce que la gauche était évincée, c'était Le Pen qui arrivait au second tour, et donc on avait du mal à comprendre comment c'était possible. Et là donc, ces sondeurs, ces commentateurs, ces politologues vont dire, ce sont les groupes populaires qui ont voté prioritairement pour le Front National. Et ils citent des chiffres, 33% des ouvriers auraient voté Front National, 30% chez les chômeurs, et autour de 31% chez les employés. Voilà, vous avez des chiffres qui sont sur la foi donc des sondages qui montrent que les groupes populaires se seraient retrouvés dans, je cite leurs mots, les solutions simplistes offertes par le Front National. Et ce n'est pas étonnant, nous disent-ils, là aussi je cite, on a affaire à des largués, des paumés, les termes sont employés, c'est pas moi qui les emploie, des gens qui sont sans diplôme, qui sont sans éducation, et donc du coup, ils sont incultes. Encore une fois, c'est pas moi qui emploie ces termes-là, c'était dans les commentaires de presse, sur la foi des sondages, donc. Ce sont des incultes, sans culture, donc. Et donc, du coup, cette inculture les rendrait crédules et réceptifs aux arguments simplistes et xénophobes du Front National, à l'inverse des élites sociales, ça aussi c'est dit, qui, elles, seraient protégées par leur culture, et donc elles seraient à l'écart de ce vote en faveur du Front National. À cette occasion, on voit apparaître, donc c'est un véritable scoop, c'est un véritable scoop, puisque jusque-là, on se disait que les groupes populaires votaient plutôt à gauche. Et là, non, on nous montre, chiffre à l'appui, qu'ils se sont ralliés au Front National. Apparaissent alors des termes nouveaux, sensationnels, comme par exemple le gaucho-lepénisme. Le gaucho-lepénisme, c'est ce terme qui indique qu'il y aurait eu, lors de ces élections, donc, un passage immédiat d'un vote à gauche au vote Front National. Ces classes populaires auraient voté avant à gauche et elles se seraient reportées directement sur Le Pen en fonction de leurs idées. Ce seraient donc leurs idées qui les auraient amenées à ce revirement. Et vous avez toute une batterie en fait d'indicateurs qui pose une série de questions donc à ceux qui répondent au sondage, qui essayent de voir leurs idées. Donc, est-ce que vous êtes pour ou contre l'immigration, pour ou contre la lutte contre l'immigration, est-ce que vous trouvez qu'il y a trop d'étrangers en France, etc., etc. Et donc, ce que montrent ces sondages, c'est qu'on aurait affaire à des gens racistes, xénophobes. Alors après, le terme va être euphémisé, on n'emploiera plus le terme raciste ou xénophobe, on emploiera le terme ethnocentrique. Mais ça signifie la même chose, hein. Donc voilà, donc le terme gaucho-lepénisme, vous en avez un autre aussi, ouvriéro-lepénisme. Là, l'ouvriéro-lepénisme vise à montrer que plus on est inséré dans le milieu ouvrier et plus vous êtes enclin à voter Front National. Hein, donc voilà, il y a toute une batterie d'indicateurs qui montrent, est-ce que vous êtes ouvrier vous-même ? Oui, non. Est-ce que votre conjoint est ouvrier ? Oui, non. Est-ce que vos parents sont ouvriers ? Oui, non. Et en fonction de trois attaches, hein, être ouvrier, avoir un conjoint ouvrier, avoir des parents ouvriers, eh bien, vous avez une très forte inclination à voter Front National. Donc, ouvriéro-lepénisme. Bon, je reviendrai plus tard si ça vous intéresse. Puis après, un tout petit peu après, vous avez un autre terme qui a été promis à une très grande fortune, le terme de trotsko-lepénisme. Trotsko-lepénisme, là, ça vise à montrer qu'il y a des liens entre les extrêmes. Extrême-gauche, extrême-droite, c'est pareil. C'est la même personnalité psychorigide. C'est pas moi qui emploie le terme, hein. Psychorigide, qui refuse les compromis, qui lutte contre les étrangers. Donc c'est pas étonnant, hein, si on voit des anciens électeurs trotskistes, de la Guillet ou d'autres, se reporter sur le vote Front National. Donc je vous l'ai dit, ça a été promis à une très grande fortune, hein, puisque vous devez vous en souvenir, il y a peu, lors des élections présidentielles, vous avez eu des unes. Hein, dans la presse sous le titre Le Pen, Mélenchon, même combat, hein, donc on voit bien c'est pareil, hein, avec des questions sur est-ce que les électeurs de Mélenchon vont pas s'emporter sur les électeurs de Marine Le Pen, grande question, même combat, hein. Et puis de plus en plus le terme de populisme fonctionne à l'inventaire à la Prévert, sans la poésie, hein, mais avec les intérêts bon politiques en plus, hein, Chavez, Berlusconi, etc., etc., sont des populistes, hein, indépendamment de leur position bon politique, des politiques sociales qu'ils mettent en œuvre, du contexte national dans lequel ils sont inscrits, c'est pareil. Bien. Sur ces commentaires. Des équivalences, donc on le voit, sont établies. Équivalence entre l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est pareil. Hein. Équivalence aussi que l'on retrouve, hein, que l'on a retrouvé longtemps, alors ça marche un peu moins, mais quand même, c'est toujours ça. Hein. Le Front National, en fait, aurait remplacé le Parti communiste. Hein, et le Front National serait maintenant le premier parti ouvrier en France, le Parti communiste étant donc en chute électorale, bien, voilà, c'est le Front National qui se serait substitué, en fait, au Parti communiste. La preuve, nous dit-on, hein, toujours ces commentateurs, voilà, il remplit une fonction tribunicienne. Hein. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette notion, hein, la fonction tribunicienne, c'est l'invention d'un politiste, Georges Laveau, pour qualifier le Front National. Et la fonction tribunicienne, c'est cette fonction qui a été remplie par le Parti communiste, de porter la voix des plus fragiles, des plus faibles, etc., d'élever la voix donc, contre les dominants, mais aussi de promouvoir à l'intérieur du Parti communiste les enfants issus des groupes populaires. La fonction tribunicienne, ça désigne ça. Or, quand on lit un peu la manière dont elle est employée par ses commentateurs, on s'aperçoit que la notion est très appauvrie, elle ne signifie plus que le fort en gueule. Hein, bon, voilà, le Front National élève la voix, donc voilà, il remplit une fonction tribunicienne. Le problème, c'est quand on regarde... Vous savez, bon, des analyses sociologiques qui ont été faites sur ce point-là. Est-ce que le Front National promeut à l'intérieur de son organisation des enfants des classes populaires ? Ça ne marche pas. Hein, ça serait même l'inverse. tout le fonctionnement du Front National, hein, vise à mettre sur le côté les enfants des classes populaires et à promouvoir, bon, plutôt les enfants des classes supérieures. Donc on voit bien, enfin, me semble-t-il, hein, que le terme de populisme employé pour le Front National, hein, c'est un mot vide de sens, sans fondement concret, mais qui autorise des équivalences, hein, sans plus de recherche à faire. Hein. L'emploi du mot suffit. Voilà, dire un tel est populiste, ça suffit pour le classer du mauvais côté, en fait, de la dignité mon politique. Alors ça a cet effet-là, ça a l'effet, je vous l'ai dit, de stigmatiser les groupes populaires, vus comme les principaux soutiens de ce parti frontiste, hein. Mais aussi ça a comme effet, ce dont on s'aperçoit moins, ça a comme effet d'offrir au Front National une identité nouvelle, hein, que celle qui était la sienne jusque-là. On ne dit plus de lui que c'est du fascisme, ou que c'est de l'extrême droite, on dit que c'est du populisme, et l'on peut dire que dans la hiérarchie des injures, le populisme est moins grave que la qualification de fasciste. Hein? Fasciste, c'est très lourd à porter. L'identité de populiste, on peut l'endosser, ce que n'ont pas manqué de faire les dirigeants du FN, puisque à partir des années 1995-1996, ils vont dire, oui, le Front National est un parti bon populiste. Nous sommes les seuls à défendre les classes populaires et la classe ouvrière. Et à ce moment-là, ce sont effectivement les seuls, si l'on peut dire, à utiliser le terme ouvrier, hein, qui a été très longtemps jugé comme un vieux terme, un peu archaïque, un peu dépassé. Souvenez-vous, dans les années 90, Jospin ne veut plus l'employer. Hein, ce sont les seuls à ce moment-là. Maintenant, c'est plus tout à fait le cas avec un autre parti qui, lors des présidentielles, a revendiqué, hein, le terme de classe ouvrière, de défense de la classe ouvrière. Mais à ce moment-là, le Front National est à peu près le seul à dire oui, nous sommes le parti de la classe ouvrière, nous sommes le seul à la défendre, nous sommes un parti bon populiste. En quelque sorte, le Front National et ses dirigeants, bien sûr, endossent une injure un peu moins grave que l'injure de fascisme et la transforment en lettre de noblesse. Nous sommes les seuls à nous intéresser aux classes populaires. Donc voilà un peu pour cette histoire, hein, l'histoire de cette évidence, hein, qu'il y a bien un lien entre classe populaire et Front National. J'espère vous avoir montré que c'est une histoire un peu compliquée et où les liens sont moins bien établis que ceux que l'on pouvait imaginer. Mais j'aimerais en apporter de nouvelles preuves, hein. C'est mon deuxième point donc. En vous montrant que l'idée de penser, enfin, le fait de penser que les groupes populaires votent pour Le Pen ou pour le Front National est une illusion très mal fondée. Alors, je vous l'ai dit, le parallèle Front National-PC est très mal établi. Hein, bon, très mal établi. Il n'y a pas de fils du peuple au sein du Front National. Les dirigeants appartiennent aux classes supérieures, les militants aux classes moyennes. La fonction tribunicienne ne veut rien dire sous la plume des commentateurs. Revenons sur les sondages. Les sondages, donc les premiers commentaires, hein, ont eu lieu donc le lendemain du vote. Hein, donc tout de suite, c'est sur cette base-là que les commentateurs prouvent, hein, que le Front National est bien de populisme. Ils vous disent, voilà, hein, 33% des ouvriers, 30% des chômeurs, 31% des employés ont voté Le Pen. Sauf que, 2-3 mois plus tard, les sondages ont été revus à la baisse. Et donc là, ça serait plutôt autour de 20% des ouvriers ou des employés qui auraient voté Front National. Bon, c'est moins déjà. Hein. Surtout qu'en comparaison avec d'autres groupes sociaux, vous avez d'autres groupes sociaux qui ont voté plus que les ouvriers ou que les employés pour le Front National. Et encore une fois, les petits artisans, les petits commerçants, les cadres supérieurs du privé ont voté plus que sur la base des sondages, je vais revenir, hein, mais plus que les ouvriers ou les employés pour le Front National. ça n'a pas empêché l'étiquette de se maintenir. Je sais pas, on aurait pu employer une autre étiquette à ce moment-là, se dire, je sais pas, moi, c'est le pôle économique. Enfin, vous voyez, les classes supérieures, non. On laisse le terme de populisme, alors que les sondages ont été revus à la baisse et que d'autres groupes sociaux que les ouvriers et les employés ont voté un peu plus que Front National. L'explication aussi qui est avancée. Voilà, pourquoi ces ouvriers, ces employés, voilà, se seraient précipités en quelque sorte dans les bras de Jean-Marie Le Pen. Donc, la principale explication, c'est la misère sociale, la souffrance. On l'a entendu aussi lors des présidentielles de 2012. Hein. Les gens souffrent, ils sont victimes de la crise, et donc voilà, ils se reportent sur toutes les solutions les plus extrêmes. Qu'il y ait de la misère ou de la souffrance, d'accord, hein, mais qu'il y ait un lien entre misère sociale, souffrance et vote extrême, c'est là où ça va moins bien. Parce que si c'était vrai, admettons que ça soit vrai, alors il faudrait s'étonner de l'extrême faiblesse du score de Front National. Au plus fort du vote Front National, donc au second tour des élections de 2002, le Front National rassemble autour de 4 millions de personnes. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Mais je ne sais pas, la misère sociale, la souffrance, je ne sais pas si on tient compte du chômage, de ceux qui vivent avec les minima sociaux, etc. Ça rassemble autour de 10 millions de personnes à peu près. Il en manque 6 là, hein. Où ils sont, hein, le score frontiste devrait être nettement plus élevé s'il y avait bien un lien entre souffrance sociale, misère sociale et vote à l'extrême. Ça veut dire qu'il existe bien des verrous moraux, même chez les plus démunis, même chez les plus incultes, qui les empêchent de se reconnaître dans ce parti indigne qu'est le Front National. Mais revenons quand même sur les sondages comme preuve. Hein. Le problème, d'abord, c'est que ce sont en fait des sondages, c'est-à-dire des instruments de mesure qui pensent que l'on dit ce qu'on fait et qu'on fait ce qu'on dit. C'est particulier quand même. On le sait bien qu'on peut taire ce qu'on fait. Surtout quand c'est un parti indigne. On l'a vu, il y a pas mal de gens qui refusent de dire, tout au moins à ce moment-là, hein, qu'ils avaient voté Front National. Ça ne les empêchait pas de le faire, mais ils ne le disent pas, mais on ne les retrouve pas dans les sondages. D'accord. De la même manière, ces sondages, je vous l'ai dit, ne reposent que sur les votants, ceux qui sont allés voter, hein, et non pas, comme le font les sociologues qui s'intéressent au mode de production du vote, et non pas aux résultats électoraux, et non pas donc sur l'ensemble des gens en âge de voter. D'accord. Si l'on raisonne sur l'ensemble des gens en âge de voter, et qu'on regarde la propension à se rendre aux urnes. Là, il faut s'intéresser à ce que les sociologues appellent les mobilisations électorales et les différentes formes de mobilisation électorale. C'est-à-dire inscription sur les listes électorales, abstention, vote et ensuite les préférences électorales. Vote à gauche, vote à droite, vote à l'extrême droite. Quand on fait ça, quand on regarde ces mobilisations électorales, on s'aperçoit alors que l'abstention frappe très majoritairement les groupes populaires. Ceux qui sont sans diplôme, qui sont sans travail et qui ont des conditions matérielles de vie très fragiles. Autour de 30%, hein, de, bon, par exemple des ouvriers, et notamment bon, des ouvriers sans qualification, ne sont pas inscrits sur les listes électorales. D'accord. Et parmi ceux qui restent, vous avez aussi autour de 30% qui ne se rendent pas aux urnes. Donc on peut dire que le premier parti ouvrier, ce n'est pas le Front National, c'est l'abstention. C'est là où se retrouvent tous ceux qui occupent des positions subalternes dans la hiérarchie sociale et qui disposent de moindres ressources sociales que les autres. Quand on regarde maintenant, ça sont des travaux un peu récents qui ont fait de l'observation ethnographique des quartiers populaires. Là, je n'ai raisonné que de manière générale, Hein, quand je vous dis 30%, c'est 30% sur toute la France. Mais quand on focalise les regards sur les quartiers moins populaires, on s'aperçoit qu'il y a de très fortes inégalités entre les quartiers mixtes, par exemple, où cohabitent classe supérieure et groupes populaires, et les quartiers moins populaires. Hein. En quelque sorte, vous avez une ségrégation sociale, les groupes populaires entre eux, donc les plus démunis entre eux, qui se double d'une ségrégation spatiale. On les met à côté, dans des quartiers ZUP, hein, et qui se redouble encore d'une ségrégation électorale. C'est-à-dire que c'est là, dans ces quartiers en fait populaires, où vous avez le taux de démobilisation électorale le plus fort. Non-inscription sur la liste électorale, mais aussi mal-inscription sur les listes électorales. C'est-à-dire des gens qui sont inscrits sur une liste électorale dans une autre ville, qui n'ont pas pris le temps de se réinscrire là où ils habitent et qui ne peuvent pas aller voter. Puis, abstention. Et vous avez des scores d'abstention extrêmement forts, souvent autour de 60 à 70%. Donc vous voyez, vous pouvez avoir des inégalités sociales devant le vote extrêmement fortes, ce que généralement donc on oublie. Et là encore, quand on regarde donc le vote, les préférences électorales, une fois qu'on a pris en compte les différentes formes de mobilisation électorale, je vous l'ai dit, le premier parti, c'est l'abstention. Puis quand on regarde le vote, on s'aperçoit que c'est toujours la gauche qui attire le vote des classes populaires, mais de moins en moins depuis les années 80. Puis la droite classique, et enfin, simplement, le Front National. Et pas du tout à hauteur de 25-30%, à hauteur de 16 à 17%. Donc rien à voir avec un raz-de-marée chez les groupes populaires pour le Front National. Si l'on fait la même chose sur d'autres groupes sociaux, vous avez d'autres groupes qui sont nettement plus enclins que les groupes populaires à voter en premier pour le Front National. En fait, vous avez des études qui l'ont montré, le Front National, les principaux soutiens de Front National sur le mode électoral, ce sont plutôt en fait des électeurs de droite qui se sont radicalisés et peu importe leur origine sociale. Ça peut être des ouvriers, il y a toujours eu des ouvriers qui votaient à droite, ce n'est pas une nouveauté, mais ouvriers, artisans, petit commerçant, cadre supérieur du privé. C'est plutôt la clientèle de droite, la clientèle électorale de droite, et c'est plutôt une clientèle qui s'est radicalisée en votant à l'extrême droite. Donc au bout du compte, on voit que cette idée de faire un lien entre classe populaire et Front National, d'abord elle est vraiment très mal fondée, me semble-t-il, mais je pourrais encore avancer d'autres raisons, mais je m'arrête là. Mais surtout, elle a comme effet, en quelque sorte, de rejouer la supériorité morale des élites contre celle du peuple. C'est-à-dire, les élites sociales ne votent pas Front National. Elles sont protégées par leur culture, etc. Elles ne sont pas xénophobes. Elles ne sont pas racistes ou ethnocentriques. À l'inverse de ces groupes populaires, très démunis, incultes, etc., qui se retrouveraient. Donc c'est une manière de rejouer la supériorité des élites sur le peuple, ou sur les groupes populaires plutôt, mais là, en la surajoutant, si l'on peut dire, d'une supériorité morale. À l'inverse, elle l'incite, en quelque sorte, à regarder de haut, sur un plan moral, donc les groupes populaires, et ainsi à créer une forme de distance morale très forte entre ceux qui votent bien et puis ces plus démunis qui, une fois qu'on les laisse voter, votent toujours pour le plus extrême. Ça crée une distance morale très forte qui autorise en fait le mépris social. Ce que l'on a vu avec les commentaires que je vous ai déjà cités, les larguer, les paumer, bien. Alors, mépris qui incite à penser, en fait, que je le dis de manière très, très, très brutal. Hein. Les pauvres sont toujours des mauvais pauvres. Hein. Bon, si on les laisse faire, ils font toujours l'envers de ce à quoi en fait on s'attendrait. Ce qui peut d'ailleurs justifier toutes les politiques de surveillance mises en œuvre. Hein. Les contrôler pour voir s'ils ne trichent pas sur le chômage, hein, qu'ils ne trichent pas à la sécurité sociale. Et du même coup, cette manière de voir empêche, et c'est mon troisième point sur lequel je vais aller un peu plus vite, hein, ça empêche de se poser d'autres questions que cette question des liens entre classe populaire et Front National. D'abord, ça empêche de se poser des questions à propos des groupes populaires, hein, et par exemple de s'interroger sur, me semble-t-il, ce qui est un élément neuf, hein, c'est la montée de l'abstention chez eux. Et pas simplement de l'abstention électorale, mais l'abstention dans tous les lieux où se débattent les questions civiques ou bien politiques. Hein. Ils sont de moins en moins en fait présents dans les syndicats, de moins en moins en fait présents dans les partis politiques, et ils votent de moins en moins. En quelque sorte, il faudrait s'interroger sur les raisons de la démobilisation politique des groupes populaires et pas s'interroger sur leur engouement supposé pour l'extrémisme. Et là, du coup, se poser des questions sur le rôle, je ne sais pas moi, des organisations, qu'elles les encadrent. Le Parti communiste, le Parti socialiste, voilà, qu'est-ce qu'ils sont devenus, comment est-ce qu'ils fonctionnent, et pourquoi généralement ça fonctionne à l'éviction ou à la mise à l'écart, en quelque sorte, des groupes populaires. Ou encore de poser des questions sur la démocratie sociale. Hein, on sait très bien que plus on est inséré, en fait, socialement, plus on s'intéresse à la vie de la cité et plus on vote. Hein, donc, est-ce qu'il n'y a pas des questions à se poser sur les politiques sociales qui sont mises en œuvre, hein, sur la réduction des aides sociales, hein. Bien. Donc voilà pour les groupes populaires. Sur le Front National, on pourrait aussi se poser des questions, hein, mais pas celles qui sont posées sur l'attirance, hein, l'engouement qu'il y aurait pour le chef charismatique. Alors ça joue un peu moins bien avec Marine Le Pen maintenant. Parce que bon, c'est une fille, elle est moins forte en gueule que son père, quoique, mais enfin bon. Ce qui marchait sur Jean-Marie Le Pen, ça a quand même un peu de mal à prendre sur elle. Et là, je pense qu'il faudrait se rappeler la phrase de Orwell, hein, George Orwell, donc au sortir de la Seconde Guerre mondiale, quand il disait « Lorsque les fascistes reviendront, ne croyons pas qu'ils vont revenir avec la croix gammée et le crâne rasé. Ils vont revenir avec le chapeau melon et le parapluie bien roulé sous le bras. Hein ». Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'être dans la forme, si l'on peut dire, attendue du fascisme. Encore une fois, le crâne rasé, les croix gammées, ça existe, hein, bien sûr, mais c'est peut-être pas ça le plus important, hein. Peut-être qu'il faudrait regarder un peu ce que font les dirigeants et les militants Front National pour voir s'ils ont vraiment changé. Voilà, est-ce qu'ils ont vraiment changé, ça peut être une question que l'on se pose. Bon. Il y a des travaux qui ont été faits, des travaux sociologiques, hein, sur par exemple, les pratiques militantes des gens du Front National. Alors, c'est vrai que le recours à la violence de rue est de moins en moins autorisé, justifié en France. Mais si l'on regarde ailleurs, ce qu'ont fait donc certains sociologues, on s'aperçoit qu'il y a des militants frontistes, hein, qui ont été faire usage de violence et apprendre le maniement des armes dans des guerres. La guerre au Liban, en ex-Yougoslavie, etc. Rien ne dit qu'un jour que les compromis, les transactions, les alliances ayant changé, ils ne reviennent pas en France, hein, faire usage de la même chose. Hein. Donc ce qui est interdit là est autorisé ailleurs, mais ça on le voit moins. Hein, donc on se focalise sur le langage maintenant. Hein, le langage, puisqu'on a dit à propos de Marine Le Pen, voilà, bon, elle est moins extrémiste que son père, bon, elle est moins violente aussi dans sa manière de parler. Et donc, le Front National s'est notabilisé. Alors là, vous avez des travaux qui montrent qu'il y a eu tout un apprentissage chez les militants frontistes, hein, sur le double langage, c'est-à-dire la manière de dire sans dire. J'ai une collègue qui a eu les petits fascicules de formation qui sont donnés donc, aux militants frontistes dans les années 90 pour leur apprendre ce qu'il faut faire et pas faire. Et donc sur le langage, c'est très très intéressant. Bon, par exemple, on leur apprend à ne plus dire « il faut foutre les bougnoules à la mer », mais plutôt dire « il faut raccompagner les étrangers à la frontière ». Mais quand ils le disent, c'est la première chose qu'ils entendent. Il faut foutre les bougnoules à la mer. Bon, de la même manière, y a d'autres exemples, mais je vais vite. Le discours social, voilà. Donc Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen aussi aurait un discours social. Il s'intéresserait donc aux groupes populaires. Il serait bon parmi les seuls à les défendre. C'est oublier quand même ce qu'ils disent sur les immigrés. Et pourquoi je dis ça? Parce que la question des immigrés, sociologiquement, c'est qu'avec les immigrés, on a affaire à des membres des classes populaires. Donc, quand ils parlent immigrés, ils parlent aux classes populaires. Et là, on ne peut pas dire qu'ils soient très tendres à l'égard des immigrés. De la même manière, on dit, en fait, avec le Front National, on a affaire à du nationalisme. Des gens qui seraient la défense de la France, qui défendent les frontières de la France. Bien. Oui et non quand même, parce que quand on regarde et que l'on analyse donc ce qu'ils disent et ce que leur discours fait à la réalité, et toujours quand ils parlent des immigrés, on s'aperçoit qu'ils disent immigrés à propos de gens qui sont nés en France. C'est-à-dire qu'ils présentent comme étrangers à la France des gens qui sont français. Au lieu de dire nationalisme, on ferait mieux de dire dénationalisme. Et si l'on dit dénationalisme, alors là, la filiation, on peut la faire remonter à Vichy, bon, par exemple, quand le régime du général Pétain, de maréchal Pétain, transformait les opposants en étrangers intérieurs ou les juifs en étrangers intérieurs susceptibles de politiques extrêmement répressives. On dit aussi, les commentaires sont très très fréquents, le Front National aurait changé, il serait donc notabilisé, et il se serait acclimaté à la démocratie, bon, parce qu'il participe aux élections. Le fait qu'il participe aux élections montre qu'il a accepté les règles de la démocratie. Il présente des candidats, il présente des programmes, etc. Alors là, il faut se souvenir qu'en 1972, lors de la création du Front National, sous l'égide de Jean-Marie Le Pen, donc qui rassemblait l'ensemble des nébuleuses extrémistes de l'époque, la question a porté sur la stratégie à adopter pour faire passer les idées radicales. Et si Jean-Marie Le Pen, c'est Jean-Marie Le Pen donc qui l'emporte, et qui l'emporte, il impose sa stratégie, il faut se présenter donc aux élections, c'est pas du tout parce qu'il est démocrate, c'est parce qu'il pense que comme cela, les idées en fait qui sont défendues vont mieux passer dans la société française. Auquel cas on peut dire qu'il n'a pas forcément eu tort. En tous les cas, on ne peut pas dire sur la base d'une participation aux élections que le parti s'est acclimaté à la démocratie. Et l'on peut même dire que c'est pas un parti qui s'est notabilisé, c'est un parti qui est notable et radical à la fois. Il est les deux à la fois. Ce qui a comme effet de nous perturber dans nos croyances politiques et démocratiques. On est soit l'un, soit l'autre. Là, on a affaire à un parti qui est les deux à la fois. Recrutés dans les classes supérieures et qui ont de moins en moins besoin de voix pour se faire élire. Voilà, on pourrait se poser des questions. C'est quoi une démocratie qui fonctionne comme ça? Entendez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'on n'est pas en régime démocratique. Il y a des institutions, et encore heureux qu'elles existent, le Parlement, la liberté de la presse, etc. Mais on peut se poser des questions autres. Et de la même manière, sur les idéaux sur lesquels repose la démocratie, je ne sais pas moi, l'égalité, la tolérance, est-ce que ces idéaux sont vraiment gravés dans le marbre et qu'on serait à l'abri, en quelque sorte, d'une transformation ou d'une érosion de ces idéaux-là? On peut se poser la question. quand même avec les politiques sociales qui sont mises en place et qui réduisent de plus en plus l'aide sociale aux plus faibles. Quand on voit aussi les inégalités de richesse qui s'accroissent, on peut se poser des questions aussi sur cette, sous cet angle-là. En quelque sorte, et je finis sur ce point-là, à la limite, peu importe le terme que l'on emploie pour qualifier le Front National. Fasciste, extrême droite, j'espère vous avoir montré qu'il ne fallait pas l'appeler en fait populiste, mais fascisme, extrême droite, bon, peu importe. Le principal, c'est de trouver les raisons qui le font exister sous la forme sous laquelle il existe. En quelque sorte, identifier, identifier n'est pas expliquer. Or, c'est l'explication, en fait, qui l'emporte, qui est le plus important, puisque c'est la seule manière, nous rappelait Marx, justement, de lutter contre. Merci.
La voie dérobée, le coin de cloison est prêché, le souterrain mal fouillé dont les sentinelles ont égaré la clé.
Voilà, donc toujours à écoute de Radio Canu, on vient de s'écouter une conférence d'Annie Koval. Annie Koloval, pardon, professeure de sociologie à l'Université de Nantes, conférence intitulée « Populisme, fascisme ou extrême droite » sur l'interprétation des liens entre le Front National et les classes populaires. Donc que j'avais, j'ai dit avant, boosté au niveau de l'allure pour que ça tienne dans l'heure, d'où la voix qui fait un peu bizarre, hein. Et qu'on pourra réécouter, et puis je mettrai en lien aussi l'original. Sur notre blog, sur hébergé par radiocanu.org, donc le blog d'Angle Mort. Juste pour préciser, à la fin il y a eu un petit bug, en fait un passage que je pensais avoir coupé, j'avais pas du tout coupé, et puis du coup ça, il y a eu un truc qui est tombé un peu sur le, comment je vale, non sur la soupe, c'est pas du tout ça l'expression. Et voilà. Donc si c'était bizarre, c'est normal. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé comme moi ça m'a intéressé cette question-là. Et puis je vous dis à la prochaine. Apparemment, il n'y a pas la causerie ce soir puisque personne n'est arrivé dans le studio. Dommage parce qu'en plus j'aurais pu passer le reste de voilà et puis y aller plus à la cool et puis pas accélérer la voix. Voilà, bon, c'est pas grave. Donc à la prochaine sur Radio Canu et d'ici là amusez-vous bien.
Point d'impact des colères,
à contre-courant ouvert,
et contre toutes les muselières,
à la périphérie des gens,
au cœur des poudrières,
au départ des courts-circuits,
au croisement des contraires,
au carrefour des massacres,
au point d'impact des colères,
à contre-courant ouvert,
et contre toutes les muselières,
à la périphérie des gens,
au cœur des poudrières.
Si je sors le soir et promène mon ulcère en quête d'un peu d'air pur ou d'un coin calme où m'asseoir, si je marche sans faire d'histoire, limpide et sans mystère, il n'est pas rare que j'entende mon trop d'identité, bonsoir. Non, je ne vais nulle part, et puis je n'attends personne. Alors à quoi on me compare, et de quoi on me soupçonne? Quelle est l'utilité que vos unités me talonnent? Quand je ne fais que méditer, adossé à une colonne, je ne pose aucun problème, donc je pense et suppose que ma forte dose de mélanine est la seule mise en cause. Souvent vue comme mauvaise, lors des bavures commises, et sur qui pèse en temps de crise, de grandes mises en parenthèse. Je n'y peux pas grand chose, si nous ne sommes pas en phase. Voici mes papiers, relevez mon adresse et mon place, et arrêtez de me palper à la moindre occasion. Car à la base, ma peau n'est pas douée pour la métamorphose.
Je cherche mon